J'en ai terminé, monsieur.
Merci, mon commandant. Nous allons passer tout de suite aux questions et réponses. Comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter, ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Je vous rappelle, nous avons aussi dans cette salle des collègues des différentes agences, fonds et programmes des Nations Unies. Vous pouvez aussi leur adresser vos questions. Levez la main, on va vous passer un micro. Nous commençons par la gauche. Je vois une dame qui a levé la main. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît.
Merci, Cécile Yampoyi pour les comptes d'Africa Télévision. J'ai deux petites préoccupations. La première, je l'adresse à M. Mounoubaï. Certaines sources confirment que Rutshuru serait sous l'administration rwandaise. Qu'en est-il exactement? Et puis la deuxième question, elle s'adresse au porte-parole militaire. Nous voulons savoir à ces jours, monsieur le porte-parole militaire, quelle est la situation exacte à l'est du pays? Nous sommes aujourd'hui le 8 août 2012. Après cette conférence de presse, je pense que la population aurait avoir, n'est-ce pas, une précision par rapport à la situation sécuritaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à ces jours?
Bon, je pense que le commandant vient de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Par conséquent, je crois que vous avez déjà une image d'un peu de ce qui se passe là-bas. Et quand vous parlez de situation exacte, je ne sais pas ce que vous demandez de plus au commandant. En ce qui concerne l'administration rwandaise de Rutshuru, nous savons que Rutshuru est en ce moment contrôlé par les M23. Nous n'avons aucune information en ce qui concerne l'administration de Rutshuru par des éléments rwandais. Je prends la prochaine question, ici à ma gauche.
Merci pour la parole, c'est J.C. Nyang de la Prospérité. Je pose ma question au porte-parole militaire. J'aimerais savoir où seraient les chefs militaires, les chefs de guerre Morgan, car nous avons appris qu'il a été arrêté, mais en dernière nouvelle, il serait en fuite. Merci.
Mon commandant.
Concernant le chef militaire Paul Sadala, alias Morgan, selon diverses sources, il aurait été appréhendé par des éléments Maïmaï Simba, dont notre chef Maïmaï, Jean-Luc Yabili. Sur ces entrefaites, une confusion s'installe. Selon des sources concordantes, il serait sous contrôle de Jean-Luc Yabili. D'autres indiquent qu'il se serait échappé. Certaines sources parlent de la nuit du dimanche au lundi, d'autres parlent du 2 au 3. Des enquêtes actuellement sont en cours au niveau des FRDC et au niveau de la MONUSCO pour tirer cela au clair. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour, à cet instant précis.
Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, donnez le micro. ACP.
Oui, juste une petite question qui est de l'Agence congolaise de presse. Quelle est la situation humanitaire actuellement dans la ville de Goma?
Monsieur Moudingay.
Oui, je ne sais pas. Mon micro passe, oui.
Oui, ça passe.
La situation humanitaire dans la ville de Goma, à proprement parler, on vous a fait mention, il y a quelque temps déjà, des populations qui s'étaient déplacées. Il y en a beaucoup qui étaient arrivées dans la périphérie de Goma, et notamment dans le camp de Mugunga 3, où est organisée justement la prise en charge de ces réfugiés. Alors, dans la ville même de Goma, je n'ai pas d'éléments particuliers à vous signaler par rapport à la situation humanitaire, parce que les quelques déplacés qui sont arrivés dans la ville de Goma, ils se sont réfugiés dans des familles d'accueil.
Une question. Je vois beaucoup de mains sur la droite. Est-ce qu'il y a un micro sur la droite? Oui. Monsieur Omba.
Oui, merci pour la parole. J'ai des petites préoccupations. La première, c'est de savoir l'essor du commandant de Kaziba qui a défecté avec ce cortège et qui était poursuivi par les éléments des FRDC. Est-ce qu'il y a une suite pour ce commandant-là? La seconde préoccupation, c'est au niveau du Nord Kivu, où nous avons précisé qu'il y a des forces qui se mettent à chantier pour sécuriser cette contrée. Entre-temps, est-ce que la MONUSCO a reçu des injonctions pour l'augmentation de ses effectifs pour que cette opération soit effective comme le souhaiteraient beaucoup de gens? Merci.
Si je comprends, mais votre deuxième question, c'est de savoir est-ce que la MONUSCO a augmenté ses effectifs pour la protection de Goma, c'est ça?
Oui. Et okay. S'il y a d'autres qui se sont encore ajoutés.
Mais c'est ça l'augmentation.
Voilà.
Mon commandant?
Concernant la première question qui est le sort du commandant Kaziba, d'autres informations supplémentaires par rapport aux dernières données là n'ont pas été mises à notre disposition. Effectivement, il a été poursuivi, il y a eu des accrochages, certains de ces éléments ont été blessés et même arrêtés, mais quant à son sort lui-même, je ne saurais vous donner plus d'éléments. Parce que les investigations et nos contacts avec les FRDC en ce moment ne donnent pas plus de détails. Concernant les effectifs de la MONUSCO à Goma, effectivement, la MONUSCO a renforcé ses effectifs à Goma, mais ça c'est une mesure normale conformément à notre mandat qui est la protection des civils et dans le cas particulier de Goma qui est la protection de la ville.
Merci. Prochaine question, juste à côté de vous, à votre droite.
Freddy Mwamba, pour le compte de la RTVS 1. Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO, M. Matnod Mounoubaï. Maintenant que la MONUSCO est concernée par la constitution de la force neutre, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entrevoyez la mise en place de cette force neutre, surtout que nous sommes dans un contexte où apparemment le Rwanda n'est pas d'accord avec cette force neutre, avec la MONUSCO y compris?
Je pense que votre information n'est pas correcte. La MONUSCO n'est pas du tout concernée par la mise en place de cette force neutre. Du moins, à ce niveau, il n'y a aucune information nouvelle qui dit que la MONUSCO va y prendre part. À votre droite, je comprends une dernière question, oui?
Oui, Alain Waikani, RTNC Radio, Desk Anglais. Je voulais poser la question à M. Diène pour savoir la situation en Ituri. Le Trosso Bogoro Kasenyi, après l'assassinat des 5 étudiants, la situation s'est empirée parce qu'il ne passe pas des jours sans retrouver les corps des gens, sa vie sur la route entre Bogoro et Kasenyi. Alors, quelle est la situation pour le moment et qui est à la charge de tout ce qui se passe là-bas entre Bogoro et Kasenyi?
Merci de votre question. Après les meurtres, la MONUSCO a entrepris, la force de la MONUSCO a entrepris des mesures. 3 postes opérationnels ont été installés dans le secteur de Kasenyi. Hier, le commandant de secteur était lui-même sur place, en plus des membres civils de la mission, pour tempérer la situation, éviter une détérioration jusqu'à ce qu'il y ait affrontement entre les deux communautés. Donc aujourd'hui, une présence effective, dissuasive est sur le terrain, en plus des démarches que les membres des communautés traditionnelles, les civils de la MONUSCO sont en train d'effectuer sur le terrain.
Merci. Nous allons prendre une question derrière.
Honoré Mbinga, journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole. Ce n'est pas la première fois, monsieur le porte-parole, que la MONUSCO lance un appel à l'endroit du M23 de cesser des hostilités. Mais en revanche, on voit que M23 est toujours entêté et décidé d'aller de l'avant. Quel serait, selon vous, parce qu'il continue à décimer les civils, quelle serait, selon vous, monsieur le porte-parole, la prochaine stratégie de la MONUSCO en cas d'entêtement du M23? Merci.
Vous savez que la question du M23 a été évoquée au niveau même du Conseil de sécurité. Le président du Conseil de sécurité, dans sa déclaration, a déjà demandé le démantèlement du M23, demandé aussi à tous les pays de ne pas soutenir le M23. Pour le moment, nous sommes dans une approche pacifique, puisque nous lançons un appel au M23, nous demandons au M23 de se désarmer, nous demandons au M23 de cesser toute activité sur le sol congolais. Dans tous les cas, le moment venu, et si le M23 s'entêtait à continuer dans ses activités militaires, je pense que le moment venu, le Conseil de sécurité prendra une décision et nous allons nous aligner sur la décision du Conseil de sécurité. Prenons Chine Nouvelle.
Merci, c'est Steve Wemby pour la Chine Nouvelle. Monsieur le porte-parole militaire, aujourd'hui matin, nous avons appris à Lubumbashi qu'il y avait des affrontements au niveau de l'aéroport. Selon vous, qu'est-ce qui était à la base de ces affrontements et quel est le bilan? La seconde question, c'est au porte-parole civil, M. Mounoubaï. Dans un rapport de M. Roger Miss aux Nations Unies, il avait mis en doute la capacité des FARDC à combattre le M23. Il a même signalé que la MONUSCO avait utilisé la démonstration pour dissuader les rebelles M23, mais ces rebelles continuent toujours à avancer vers la ville de Goma. Est-ce que la MONUSCO et les FARDC ont échoué à faire face à cette rébellion, ou bien vous avez cessé parce que vous attendez encore d'autres résolutions de la CIRGEL? Merci.
Mon commandant, première question.
Merci pour cette question. Donc, effectivement, hier, à la nuit du mercredi au jeudi, à la nuit du mardi au mercredi, des hommes non identifiés armés ont attaqué l'aéroport de Luano à Lubumbashi. Le bilan, il y a un garde républicain qui a été brûlé vif, donc décédé. Deux autres qui sont morts par balle. Le bilan total est de 3. Les assaillants ont pu s'échapper par la forêt, malgré la riposte des autres gardes républicains. Les enquêtes sont en cours pour préciser l'origine et tout ce qui s'est passé. Voilà pour le bilan et ce qui s'est passé au moment où je vous parle.
Je ne pense pas qu'il existe un rapport dans lequel le représentant spécial a mis en doute la capacité des FRDC à se battre sur le terrain. Il y a eu, je dirais, une réunion interne, un briefing que le représentant spécial a donné au Conseil de sécurité. Et c'est une discussion interne au cours de laquelle toutes les éventualités ont été discutées. Par conséquent, il n'a jamais été question de mettre en cause la capacité de FRDC à tenir le terrain ou à se battre. Il n'existe pas un rapport de ce cas. Les éventualités qui ont été discutées ont été certainement celles de savoir qu'est-ce que la MONUSCO et les FRDC pourront faire ensemble, qu'est-ce que la MONUSCO pourrait faire toute seule et, bien entendu, qu'est-ce que les FRDC pourraient aussi faire à elle seule de son côté. Voilà ce qui a été discuté. Nous passons sur la gauche. Oui, à côté de vous.
Oui, Alain Mouzi pour Sangomalam Télévision. Je voudrais revenir sur le sommet de Kampala. Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense des quatre États, dont l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la RDC, auraient décidé au cours d'une réunion en prélude, selon un quotidien de la place, que la MONUSCO évolue dans un format renforcé mais aussi que cette force régionale neutre travaille en collaboration avec la force onusienne. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Et deuxièmement, au porte-parole militaire, au sujet de Mai Mai Gédéon dans la province de Katanga, est-ce que la MONUSCO a essayé de s'enquérir sur le raison de combat de cette force? Et pourquoi ne pas mettre une opération spécifique pour combattre ces forces négatives?
Ah, je ne suis pas au courant de ce que vous venez de dire. Dans tous les cas, si ces pays venaient à prendre cette décision, je pense que leur décision devrait être communiquée au Conseil de sécurité pour savoir ce que le Conseil de sécurité en pense et si le Conseil de sécurité va changer ou donner d'autres tâches à la MONUSCO. Ça ne viendrait pas directement de ces pays vers la MONUSCO, mais voilà la procédure à suivre. En tous les cas, je vous dis, je ne suis pas au courant de ce qui a été décidé ou de la décision dont vous venez de parler. Mon commandant.
Merci. Merci pour la question. Concernant les mêmes Gédéon, effectivement, beaucoup de mouvements ont été signalés, en particulier dans le territoire de Manono et de Poueto, concernant les mêmes Gédéon. Pas plus tard qu'entre le 28 et le 31 juillet, Gédéon, qui serait à la tête d'une quarantaine d'hommes, a été signalé dans ce secteur, en contact avec des villages, pour forcer, de manière présumée, le recrutement des jeunes de ces villages. Pourquoi la MONUSCO n'entreprend pas d'action militaire contre Gédéon? C'est juste pour vous rappeler que les actions militaires sur le territoire de la FRDC du gouvernement congolais sont d'abord du ressort du gouvernement congolais et que la MONUSCO vient en soutien. Et je crois qu'il a été déjà détaillé comment la MONUSCO soutient les FRDC sous un régime de conditionnalité s'ils veulent faire des opérations. Donc, c'est un soutien qui est toujours disponible et effectivement, nous tenons en compte toutes les informations que nous avons sur Mai Mai Gédéon et toutes les activités des autres groupes armés.
Nous avons une minute, nous prenons une dernière question. Oui, derrière vous.
Philemon, RTGA. Ma première question, c'est à Ocha. Qui ont brûlé les 258 écoles? Et c'était quand? Et la seconde, monsieur le porte-parole militaire ou civil, quand est-ce qu'on pourra lever l'embargo sur les armes pour la République démocratique du Congo? D'aucuns pensent qu'il y a un embargo.
À ma connaissance, non. Il n'y a pas d'embargo sur la République démocratique du Congo. Humanitaire?
Concernant les 258 écoles dont il est fait question dans le rapport de l'UNICEF, ces écoles ont essentiellement été pillées, incendiées par différents groupes armés. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Il est 12 heures, nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi et remercier tous nos auditeurs qui nous ont suivis en direct. Quand je dis il n'y a pas d'embargo sur la République démocratique du Congo. Nous pouvons continuer cette discussion. Qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Ok? Nous pouvons continuer la discussion. Je suis tout à fait prêt maintenant. Qui dit le contraire? Ok, merci beaucoup alors.